France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des vacances pour tous, c'est le combat des jeunes engagés au Secours Populaire qui se mobilisent aujourd'hui. Nous les écouterons et nous verrons ce que réserve la météo pour cette fin de semaine. Encore 17 départements en vigilance orange canicule dans le sud-est, prévision complète dans une demi-heure. À suivre encore, 5 mineurs dans une voiture suivis par la police. Sortie de route en Saône-et-Loire, l'accident fait un mort. Un enfant de 13 ans, explication à suivre. Le choc pour les proches des deux Français détenus en Iran. Cécile Kohler et Jacques Paris, désormais accusés d'être des espions. À la solde d'Israël, Noémie Kohler, la sœur de Cécile, sera notre invitée. Nous nous demanderons pourquoi également Bruno Retailleau part en guerre contre les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
La violente charge du ministre de l'Intérieur fait beaucoup réagir.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et jusque dans son propre parti, vous savez que ça fait quelques semaines maintenant que Bruno Retailleau a pris la tête des Républicains. Eh bien, on a interrogé ce matin plusieurs élus du parti de droite républicaine qui sont particulièrement remontés contre cette nouvelle sortie polémique du ministre de l'Intérieur.
A tout de suite, nous verrons aussi que les sénateurs, eux, débattent du travail le 1er mai pour les boulangers et les fleuristes. À partir de 13h30, nous serons avec Christelle Gervaise. Son mari a été assassiné il y a 3 ans à Marseille. Son meurtrier vient d'être déclaré irresponsable. Elle s'interroge sur la récidive et sur le suivi des malades. Le psychiatre Manuel Orsa sera également avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, un double c'est la France. Cyril Petit et les coulisses des monuments nationaux. Et puis Marie-Luce Ribot qui s'intéresse aux oignons de Lézignan. Juste avant 14h, c'est une chanson. Une chanteuse de jazz en demande une autre. Neyma Naouri et Véronica Swift. Et puis dans une vingtaine de minutes, l'amertume des fans d'une émission télé mythique. C'est Question pour un champion. Bonjour Aurore Richard.
L'émission Question pour un champion qui va disparaître en semaine. Une institution sur France Télévisions depuis 1988 et ça fait pas mal de mécontents.
Et vous allez nous raconter que ces fans s'organisent en ce moment pour essayer d'obtenir gain de cause. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Encore un effort pour nos élèves. Dernières heures de classe. Dans la forte chaleur pour ceux du sud-est, les autres ont retrouvé des températures plus acceptables. Demain soir pour tous, ce seront les vacances, mais tous ne partiront pas. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Le Secours Populaire estime que 30% des enfants sont privés de vacances. Ce matin, de jeunes ambassadeurs sont venus le rappeler.
D'autres enfants qui sont, eux, bénévoles au Secours Populaire, qui plaident pour des vacances accessibles à tous, parce que, et c'est Naïma, 10 ans, qui le dit, le mieux, les vacances, ça apporte beaucoup.
On peut s'amuser, on peut être libre, se faire d'autres amis, on peut avoir des souvenirs vraiment meilleurs que tout ce qu'on a.
Dans un quotidien qu'il faut pouvoir oublier le temps d'une journée, Zaina, 13 ans.
Je trouve qu'on se développe plus vite quand on a des vacances que quand on fait rien chez nous. Et souvent, quand on part pas en vacances, c'est pas souvent de notre faute. C'est plus dû à des problèmes financiers ou familiaux.
Un sentiment d'injustice renforcé par le fait que pour les enfants, les vacances ne sont pas un luxe, mais un droit, rappelle Ryan, 11 ans.
C'est le droit au loisir, normalement, mais il n'est pas respecté partout. Si, par exemple, je pourrais changer le monde, je voudrais que tout le monde soit égal.
Cette inégalité, Raphaël Yem, animateur téléparrain du Secours Populaire, l'a lui-même vécu enfant, avec un moment cruel, celui de la rentrée scolaire.
Tout le monde doit raconter ou se raconte ce qu'on a fait de trop cool cet été. Toi, t'as rien à raconter. Donc moi, en l'occurrence, tu inventes. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation aussi. Et donc c'est pour ça que je m'engage aux côtés du Secours Populaire qui propose quelque chose d'incroyable, qui a une réponse à ce mal-être-là. Et on aura quelque chose à raconter à la rentrée.
Cette année, ce sera une journée de sport, visite, concert au pied de la Tour Eiffel. Ce sera le 20 août pour plusieurs milliers d'enfants de familles défavorisées.
Merci Faustine Calmel. Départ en vacances compliqué pour tous ceux qui avaient prévu de prendre l'avion. Des centaines de vols annulés aujourd'hui et demain. De nombreux retards aussi en raison de la grève des contrôleurs aériens. Ils dénoncent le sous-effectif et la mise en place de pointeuses numériques pour vérifier les horaires de travail. On en vient donc à ce drame de la route en Bourgogne. 5 adolescents dans une voiture qui roule dans la nuit de la Saône-et-Loire. Ils ont entre 13 et 15 ans tôt ce matin. Et leur véhicule fait une sortie de route près de Mont-Solémines. L'un des passagers, âgé de 13 ans, est mort. Les 4 autres sont blessés. Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Jérôme.
La voiture était à ce moment-là suivie par la police.
Oui, c'est ce qu'indiquent les services de secours. Un contrôle de police à Mont-Solémines. Le conducteur du véhicule refuse d'obtempérer et prend la fuite sur une départementale. S'engage alors une course-poursuite à distance, précise la préfecture de Saône-et-Loire. Mais 8 km plus loin, le véhicule des adolescents fait une sortie de route dans un virage et percute un arbre en contrebas. Une vingtaine de secouristes sont rapidement mobilisés. Le passager avant vivant, âgé de 13 ans, est mort sur le coup. Un autre occupant a dû être désincarcéré et conduit à l'hôpital en urgence absolue. Le conducteur et les deux autres passagers plus légèrement blessés ont également été hospitalisés. L'enquête judiciaire devra désormais déterminer les autres circonstances de ce drame, notamment si le conducteur était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants et si le véhicule qui appartenait aux parents de l'une des victimes roulait tout phares éteints, comme l'indique une source syndicale policière.
Jean-Philippe Degnaud, à Marseille, quand la police est débordée, ce sont les habitants qui prennent le relais dans la lutte contre le trafic de drogue. Dans le 11e arrondissement de la ville, résidence Belle Ombre, cela fait près de 3 semaines que les habitants alertent sur la présence de dealers au pied de leur immeuble. Pour l'instant, sans résultat, alors depuis 2 soirs, ils se chargent eux-mêmes des rondes. Marie-Lyne Ottmann, vous êtes rendue sur place.
Oui, ils étaient rassemblés au pied de la grande tour au Crépy-Rospal. D'un pas décidé marchent des hommes, des femmes et parfois même des enfants. Ils inspectent les environs.
Concrètement, on va essayer de se diriger vers les points de vente et vers les endroits où il y a les guetteurs pour pouvoir les interpeller et leur dire qu'il faut qu'ils quittent le secteur, tout simplement.
Trois points de deal encore actifs il y a quelques minutes sont déserts.
Il y en avait un qui était ici, qui était situé ici. Donc
juste au niveau de la rambarde, ouais, il n'y a plus personne.
Comme il a vu qu'il y avait du monde, donc ils se sont un petit peu écartés.
Bah oui, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils sont peut-être une dizaine, nous on est 50. Donc ils vont finir par lâcher l'affaire, en tout cas c'est ce qu'on souhaite tous. Nous, quand on voit ce qui se passe dans les autres quartiers, les règlements de compte, les balles perdues, les gens qui meurent alors qu'ils n'ont rien demandé à personne, nous on ne veut pas de ça ici.
Vous voyez qu'il suffit d'une seule chose, c'est quoi ? C'est notre présence. Notre présence, elle les fait partir.
Plus de gardiens, plus de portails sécurisés. L'état de la résidence laisse à désirer de la vie générale des habitants. Et c'est ce qui attire, selon eux, les dealers.
Reportage ici Provence. Comment faire baisser la pression ? En prison, où le nombre de détenus bat des records mois après mois, le ministre de la Justice veut utiliser de nouveaux lieux pour les détenus. Il y a des EHPAD vides, il y a des centres de vacances qui sont abandonnés, il y a des lits froids, il y a des hôtels, a expliqué ce matin Gérald Darmanin chez nos confrères de France Info. Hier, 2 surveillants pénitentiaires de la prison de Béziers dans l'Hérault ont été transportés à l'hôpital après avoir été agressés par un détenu. Le syndicat UFAP-UNSA Justice de Béziers parle de plus de 200 matelas au sol dans cette prison. Mon premier message a été d'exiger la libération immédiate de nos compatriotes Cécile Kolaire et Jacques Paris, otages du régime iranien dans des conditions inacceptables depuis plus de 3 ans. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a dit au président iranien, c'était il y a 2 semaines. Et bien visiblement, le message n'est pas passé car Cécile Kolaire et Jacques Paris sont désormais inculpés d'espionnage pour le Mossad, c'est-à-dire les services de renseignement israéliens. Tout cela, je cite, pour renverser le régime. C'est un crime qui en Iran est passible de la peine de mort. C'est un juge qui les en a informés. Ils ont ensuite transmis cette information à un diplomate français qui a pu les rencontrer dans leur lieu de détention. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, s'est exprimé à ce sujet ce matin.
Nous n'avons pas été formellement notifiés par les autorités iraniennes des charges qui pèsent sur nos 2 compatriotes. Si les chefs d'accusation qui ont été évoqués étaient confirmés, eh bien, nous les considérions comme totalement injustifiés et infondés. La libération de Cécile Kolaire et Jacques Paris est une priorité absolue pour nous. Et nous l'avons toujours dit à nos interlocuteurs du régime iranien, la question de décision éventuelle sur les sanctions sera conditionnée au règlement de ce problème, de ce différent majeur et la libération de Cécile Kolaire et Jacques Paris.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Bonjour Noémie Kolaire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter. Comment avez-vous appris que votre sœur et son compagnon étaient désormais accusés d'être des espions à la solde d'Israël ?
Eh bien, on l'a appris lors du compte-rendu de la visite qui nous a été transmis par le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay mercredi après-midi, donc hier après-midi.
Comment est-ce que vous avez réagi ?
Bah écoutez, c'est absolument terrible parce que nous, on se demande si Cécile et Jacques sont encore vivants parce qu'on manque de preuves de vie. On reçoit enfin cette preuve de vie qu'on attendait depuis plus d'une semaine et juste après, on nous indique qu'ils sont sous la menace de ces inculpations qui sont passibles de la peine de mort. Donc c'est absolument terrible. Ils viennent à peine de subir des bombardements et on les menace aujourd'hui de les accuser de quelque chose qui est passible de la peine de mort. Donc c'est absolument inhumain.
Que vous dit le Quai d'Orsay ? Que vous dit la diplomatie française ?
Alors pour l'heure, on a eu les éléments factuels qui vont découler de la visite consulaire, mais nous n'avons pas encore eu leur analyse ou leur retour sur le sujet.
Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Noémie Coller, je vous reprends dans un instant. Je voudrais juste qu'on s'interroge avec vous, Christian, sur le timing. Pourquoi ces nouvelles accusations interviennent-elles maintenant ? Est-ce que c'est lié à la guerre qui a eu lieu entre l'Iran et Israël ?
Écoutez, Jérôme, il est toujours difficile d'analyser les décisions de la justice iranienne dont le fonctionnement est d'une grande opacité, d'une grande lenteur. Le contexte actuel est sans doute un facteur aggravant. L'Iran reproche à la France de ne pas avoir condamné officiellement l'attaque préventive d'Israël sur ses installations nucléaires, appelant simplement les deux parties à la désescalade. À Téhéran, on considère que la France a pris le parti de l'État hébreu, quitte à mettre le droit international sous le tapis, bref, de soutenir l'agresseur contre l'agressé. Et puis, dans une sortie de crise de cette guerre des 12 jours, où des négociations pourraient avoir lieu prochainement, eh bien la France a durci sa position et prône désormais le zéro enrichissement d'uranium pour l'Iran, mais aussi la limitation de son programme de missiles balistiques, une posture forcément peu appréciée à Téhéran.
Noémie Coller, vous faites un lien entre la guerre qui vient de se dérouler entre l'Iran et Israël et ces nouvelles accusations ?
Bah écoutez, c'est difficile de pas voir que ça peut être lié au contexte, dans le sens où effectivement, Cécile et Jacques ont été pendant longtemps présentés comme des espions par les médias d'État iraniens. Ils ont été contraints sous la torture psychologique à faire de faux aveux en octobre 2022, dans lesquels ils s'accusaient d'être des agents de la DGSE. Mmh. Aujourd'hui, ils sont agents du Mossad, selon les dires donc de leurs juges. Voilà, c'est difficile effectivement de ne pas faire le lien avec le contexte actuel.
Alors, on n'oublie pas qu'en mars dernier, un Français qui était détenu en Iran, Olivier Grondeau, a été libéré. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la diplomatie française, Noémie Coller ?
Bah, qu'elle les sorte de là, en fait. Hein. C'est même plus une urgence. Enfin, on est passé bien au-delà à partir du moment où les bombardements ont commencé sur Téhéran. Là, il faut qu'ils sortent vraiment dans les jours qui viennent. C'est plus possible, en fait.
Vous attendez qu'Emmanuel Macron reparle au président iranien, qu'il fasse un geste, ou bien au contraire qu'on aille vers des sanctions ?
J'ai beaucoup de mal à me substituer au travail des autorités françaises en tant que famille, d'autant que je ne sais pas exactement tout ce qui est fait. En tout cas, nous, notre message, c'est que les autorités françaises fassent ce qu'elles peuvent pour les sortir de là au plus vite.
Christian Chesneau, que peut faire la France ? Est-ce que la France a des marges de manœuvre ?
Écoutez, la marge de manœuvre semble limitée, même si on vient de l'entendre. Jean-Noël Barrot, le patron du Quai d'Orsay, brandit la menace des sanctions dans ses entretiens téléphoniques avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Emmanuel Macron évoque systématiquement la situation de Cécile Coller et de Jacques Paris et exige leur libération, mais en vain jusqu'à présent. Alors, dans ce contexte tendu, il faut rappeler que deux ressortissants iraniens sont actuellement incarcérés en France, dont une femme détenue à la prison de Fresnes pour apologie du terrorisme. Il serait évidemment tentant de spéculer sur un possible échange entre Paris et Téhéran. En tout cas, l'accusation d'espionnage au profit d'Israël de Cécile Coller et de Jacques Paris complique un peu plus leur libération.
Merci Christian Chesneau pour ces précisions. Merci Noémie Coller d'avoir été en ligne avec nous dans ce 13-14. J'ajoute ce matin les mots de l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud sur Inter pour Boualem Sansal, toujours détenu en Algérie et condamné mardi à 5 ans de prison. Kamel Daoud pessimiste ce matin sur une éventuelle grâce présidentielle samedi pour Boualem Sansal à l'occasion de la fête nationale algérienne. J'espère vraiment me tromper et revoir Sansal ici en France, libre et en bonne santé. Fin de citation.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est une attaque en règle contre la politique énergétique défendue à la fois par le président de la République, mais aussi par le gouvernement. Et elle émane d'un ministre, pas n'importe lequel, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et président des Républicains. Tribune dans le journal Le Figaro, dans lequel on peut lire ceci. L'éolien et le photovoltaïque n'apportent au mix énergétique français qu'une intermittence coûteuse à gérer. Il n'y a aucune raison de continuer de les financer par des subventions publiques. Fin de citation. Alors nous verrons dans un instant avec Julien Nenni, que le gouvernement se déchire au grand jour sur ce point. Avant cela, arrêtons-nous sur cette question, la question des aides aux énergies renouvelable. Bonjour Sophie Brécherel.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça représente?
Sur les 5 dernières années, c'est environ 22 milliards d'euros, selon la Commission de régulation de l'énergie. La filière photovoltaïque est la plus subventionnée, 45% des aides. Vient ensuite l'éolien, 25%, le reste pour la biomasse, le biogaz ou encore la géothermie. Ces aides s'expliquent par le tarif d'achat garanti du kilowattheure produit, un tarif qui s'est d'ailleurs avéré compétitif quand les prix de l'énergie se sont envolés lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Dans le monde, c'est la tendance que d'investir dans les énergies renouvelables. Le débat sur le coût et les aides vient en fait de notre spécificité française. Nous avons beaucoup de centrales nucléaires, nous vivons sur un héritage et un mythe, celui d'une énergie peu chère grâce aux 57 réacteurs du parc d'EDF.
Et Bruno Retailleau explique qu'il faut de l'argent pour renouveler les centrales actuelles qui vieillissent, ça c'est vrai?
Oui, il va bien falloir les payer, ces futurs réacteurs, ou même le renouvellement, enfin du moins le prolongement des actuels. Difficile de dire combien ils vont coûter aux contribuables. À ce jour, ce que l'on constate, c'est que les chantiers des EPR ne maîtrisent ni leur délai, ni leur enveloppe budgétaire. Flamanville, c'est 6 fois plus cher que prévu et un chantier 4 fois plus long. Pour le chantier d'Hinkley Point, EPR vendu aux Anglais par EDF, le tarif du mégawattheure a été fixé par l'entreprise à 150 euros. Le nucléaire aussi a été très subventionné depuis ses débuts en 1950. 80 milliards d'aides, selon la Cour des comptes. Ce qui explique le coût actuel du mégawattheure, 60 euros selon RTE. Demain, ce sera forcément plus cher, ne serait-ce que parce qu'il va falloir financer le coût de la recherche et du développement, assuré aujourd'hui par le CEA. Il faudra aussi payer la facture pour la gestion des déchets, la sûreté, autre fonction régalienne, et puis le démantèlement des vieux réacteurs dans 20 ans. Avant cela, les coûts de prolongement, là encore, pas clairement annoncés.
Merci Sophie Brécherel. Alors arrêtez d'aider le photovoltaïque ou l'éolien. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. Gabriel Attal, le patron de Renaissance, tire à boulets rouges contre Bruno Retailleau et sa proposition. Julien Nenny, on vous retrouve. Pourquoi cette sortie maintenant?
Alors Jérôme, pour deux raisons, essentiellement totalement assumées d'ailleurs par le nouveau président des Républicains. D'abord, pour trancher une fois pour toutes la ligne de LR sur l'énergie, sujet au cœur de l'actualité en ces temps caniculaires. Ça faisait des semaines qu'une certaine cacophonie s'était installée à droite sur ce dossier. Les uns, comme Jean-François Copé ou certains députés appelant à développer les énergies renouvelables, quand d'autres à l'Assemblée plaidaient à l'inverse pour un moratoire. Vous ne découvrez quand même pas ce que pense la droite sur le sujet. C'est d'ailleurs amusé hier soir Bruno Retailleau, interpellé par François Bayrou et les autres chefs de parti du Bloc central pendant un dîner de travail à Matignon. Et puis, deuxième explication très politique, ne pas laisser le RN seul sur ce créneau, assume l'entourage du ministre de l'Intérieur, qui a bien en tête les sondages qui montrent que les deux électorats les plus opposés aux éoliennes sont 1. Les électeurs LR, 2. Les électeurs RN. Pour 2027, ça peut toujours servir. Excessif, irresponsable, populiste, voilà les adjectifs qu'on entend pourtant depuis hier soir dans la bouche de plusieurs élus LR comme dans l'entourage de François Bayrou. D'ailleurs, d'après nos informations, même son prédécesseur Michel Barnier, aux convictions écologiques bien connu, oui, et je cite, furieux après la publication de cette tribune.
Alors, vous parliez des relations entre LR et le RN. Quand on regarde dans le détail à l'Assemblée, on se rend compte que les LR votent de plus en plus comme le Rassemblement National.
Oui, nos confrères de Politico ont calculé qu'à l'Assemblée, sur 2876 scrutins publics depuis le début de la législature, plus de 7 fois sur 10, les députés LR votent comme ceux du RN. À titre de comparaison, ce n'est que 6 votes communs sur 10 entre les députés LR et les députés macronistes, loin, très loin, vous le voyez, de l'idée d'un socle commun auquel plus grand monde ne croit désormais, même si, pour sauver les apparences, hier, Emmanuel Macron, à l'issue du Conseil des ministres à l'Élysée, a tenu à poser pour la photo de famille au milieu de son gouvernement au grand complet. Ce n'était pas arrivé depuis 3 ans.
Julien Nenny pour ses explications. Les sénateurs, eux, s'intéressent aujourd'hui au travail le 1er mai avec un texte pour permettre aux boulangers et aux fleuristes de faire travailler leurs salariés ce jour-là. On se souvient que certains boulangers s'étaient plaints en mai dernier de ne pas pouvoir ouvrir faute de main-d'œuvre. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Vous avez suivi les débats ce matin au Sénat. La question, c'est de savoir si ce travail se fera bien sur la base du volontariat.
Et la réponse est oui. C'est en tout cas l'argument principal des défenseurs du texte, permettre aux fleuristes, aux commerces de bouche de proximité et aux établissements culturels de faire travailler leurs salariés uniquement si eux sont volontaires, comme le rappelle la centriste Annick Billon, auteure de la proposition de loi.
Pas d'obligation, pas de contrainte, pas d'automatisme. Tout salarié devra donner son accord préalable.
Le mot volontaire a été répété des dizaines et des dizaines de fois dans l'hémicycle ce matin, mais pas de quoi convaincre la gauche, vent debout contre le texte, notamment la communiste Cathy Apourceau-Poly.
Vous avez beau jeu de nous défendre que les salariés devront être volontaires lorsque un patron demande à un salarié s'il veut venir travailler le 1er mai, il acceptera par crainte de répercussions négatives. Le volontariat n'existe pas pour les salariés.
Clairement, deux visions très opposées s'affrontent, en témoigne la réponse faite à la gauche par le rapporteur de la commission des affaires sociales, le centriste Olivier Henno.
Les TPE qui emploient des salariés ne sont pas des esclavagistes et le travail ça n'est pas l'enfer et le lien de subordination n'a pas forcément une dimension maléfique. Donc c'est intéressant sur ces bases-là d'avoir le débat.
Et le sénateur rappelle que l'idée n'est pas de remettre en cause l'esprit du 1er mai, jour chômé, mais de clarifier la loi pour permettre à certains professionnels de travailler sans être sanctionnés.
Luc Chemla au Sénat avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. Le ministère de l'économie lui tape le géant chinois Chine au portefeuille, amende de 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. Ça fait suite à une enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. La DGCCRF a découvert que les réductions de prix accordées par Chine n'étaient pas aussi importantes que celles annoncées au départ. C'est une amende record en France pour ce type d'infraction. Le budget de l'État, il va en être de plus en plus question ces prochaines semaines. Le Premier ministre doit présenter autour du 14 juillet son plan de redressement des finances publiques. 40 milliards d'euros d'économies annoncées. Parmi les pistes avancées ces derniers mois, il y a la suppression des agences et des opérateurs de l'État. On pourrait économiser 2 à 3 milliards, assurait il y a peu la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin. Eh bien, la commission d'enquête du Sénat a livré les conclusions de son enquête. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Y a-t-il vraiment des économies à faire ?
Oui, mais très peu. Tous ceux qui annoncent des milliards d'économies sur les agences mentent aux Français, selon les mots de la rapporteure de la commission d'enquête, Christine Lavarde, une sénatrice LR pourtant. D'après ses travaux, les économies sur les frais de fonctionnement purs des opérateurs pourraient s'élever à 540 millions d'euros tout au plus d'ici 2 à 3 ans. Très loin donc des 2 à 3 milliards d'euros évoqués par la ministre des Comptes publics en avril, Amélie de Montchalin, qui d'ailleurs n'a jamais fourni sa méthode de calcul. Pour Christine Lavarde, ce qui coûte de l'argent, ce ne sont pas les agences en tant que telles, mais les politiques publiques qu'elles portent, les subventions qui transitent par elles. C'est donc, dit-elle, aux politiques de faire des choix et de les assumer.
Une agence en tant que telle n'est jamais un gouffre financier. Le gouffre financier, ça peut être les crédits qu'on met sur telle ou telle politique publique. Ce n'est pas l'existence de ces coquilles qui génèrent le coût de la dépense publique, mais c'est le fait même de l'existence d'une politique publique qui génère ces coûts. Et donc, si on veut atteindre 3 milliards, il faut avoir le courage de dire aux Français qu'on va arrêter des politiques publiques.
Mais la commission d'enquête relève également des dysfonctionnements, un archipel d'opérateurs mal connus de l'État lui-même, un manque de pilotage de l'État avec des tutelles partagées entre plusieurs ministères. Elle propose un moratoire sur la création de nouvelles entités et des mesures au cas par cas, notamment, par exemple, la suppression de l'agence bio ou de l'agence nationale du sport, mais en réinternalisant dans les ministères les missions qu'elle porte.
Marie Mollet, le groupe Stellantis rappelle plus de 600 000 véhicules Peugeot, Citroën, Fiat, Opel ou DS, équipé du moteur diesel 1.5 Blue HDI suite à des problèmes de casse. Les modèles produits entre 2017 et 2023 sont concernés. Citroën C3, C4, Opel Corsa, Moka ou encore des Peugeot 208, 2008 ou 308 en France et dans d'autres pays d'Europe. Le Rassemblement National et ses alliés à nouveau épinglés par le Parlement européen. Ils sont suspectés d'avoir dépensé indûment plus de 4 300 000 euros entre 2019 et 2024, après l'affaire des assistants parlementaires européens qui a valu à Marine Le Pen condamnation et inéligibilité, c'est une nouvelle mise en cause. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Fabien, ce rapport vise en fait un groupe politique auquel appartenait le RN jusqu'en 2024.
Oui, c'est un exercice classique au Parlement européen. Lorsqu'un groupe politique disparaît, les services financiers se plongent dans la clôture de ses comptes. Le groupe Identité et Démocratie, remplacé l'an dernier par les Patriotes pour l'Europe, dans lequel siègent aujourd'hui les eurodéputés RN, ne fait pas exception. Marine Le Pen regrette les noises, je cite, que le Parlement européen cherche, selon elle, à sa famille politique. Rien de plus normal, répond l'eurodéputé écologiste Majdouline Sbahi.
Ce qui est très inquiétant, c'est d'une part qu'on découvre que de l'argent qui doit servir normalement à la vie du groupe politique au sein du Parlement européen ait pu être utilisé à d'autres fins. On s'inquiète également de savoir qui a travaillé comme prestataire. Moi, j'ai croisé un membre de Génération Identitaire dans un ascenseur qui était accrédité par le Parlement européen. Et c'est une personne qui, en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'elle était surveillée par les renseignements français. Donc, finalement, ces révélations, elles viennent nous inquiéter encore plus sur le respect par l'extrême droite européenne de la conformité des dépenses avec ce qui est autorisé ou pas pour les groupes politiques.
L'Élysée sera officiellement présenté à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen courant juillet.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Le Portugal et le club de football de Liverpool sous le choc ce matin après la disparition la nuit dernière du joueur portugais Diogo Jota. Il avait 28 ans, il est mort dans un accident de la route avec son frère en Espagne. Jota, attaquant, joueur très collectif, était un pilier de la sélection nationale mais aussi de Liverpool. C'est inconcevable, réagit ce matin son coéquipier en équipe nationale, Cristiano Ronaldo. Cette saison, les chaînes de télévision annoncent en ce moment leur grand changement pour la rentrée. Et il y en a un qui fait particulièrement réagir, c'est l'arrêt en semaine d'un jeu emblématique depuis 1988. Question pour un champion, animé sur France 3 par Samuel Etienne. Eh bien, en septembre, il ne sera plus diffusé que le week-end. Alors, la fronde des fans s'organise. Aurore Richard, on vous retrouve. Vous avez pu joindre ce matin des fidèles qui réclament le maintien de leur émission.
Oui, à commencer par Victor, enseignant à Paris. C'est un fan de Question pour un champion depuis maintenant 10 ans.
C'est une tristesse de savoir que je vais plus pouvoir tous les soirs ou presque regarder ce moment culturel. Quasiment tous les soirs, je me fais des replays avec ma mère, on regarde ça et c'est assez plaisant et c'est une émission de culture très intéressante. Donc c'est triste de voir un monument de culture partir.
Le jeune homme a lancé une pétition pour réclamer le retour de l'émission en quotidienne. Elle compte déjà près de 20 000 signatures. Et les téléspectateurs ne sont pas les seuls à se mobiliser. Une vingtaine de députés ont écrit à la présidente de France Télévisions. Pour le député du Maine-et-Loire, Denis Masseglia, qui en est à l'initiative, cette décision revient à supprimer un vecteur de lien social.
Il y a aujourd'hui sur les territoires, et c'est le cas dans ma circonscription, dans la ville de Cholet, un club de questions pour un champion où des personnes se rencontrent en complément de ce qui se passe à la télévision. Donc voilà, question pour un champion, c'est bien plus aujourd'hui que l'émission de France 3.
Et des centaines de clubs ont en effet été créés un peu partout dans le pays. Mais France Télévisions indique avoir pris cette décision à cause d'un contexte budgétaire particulièrement contraint qui l'oblige à repenser les équilibres de grille. Alors que les audiences de l'émission sont en baisse, autour d'un million de téléspectateurs chaque jour.
On verra si cette mobilisation fait plier France Télévisions. Merci Aurore Richard.